le message que j'aimerais apporter ce matin. C'est l'autorité de la parole déclarée. Je répète, l'autorité de la parole déclarée, nous parlons de l'autorité du croyant. J'aimerais vous poser une question pour commencer ce message. J'aimerais vous poser la question suivante. Combien d'entre vous, vous savez qu'il y a une différence en ce que vous savez et en ce que vous faites? Il y a des choses que l'on sait, mais il y a des choses que l'on ne fait pas, même si on le sait. Et certaines fois, la plus grande distance qu'il y a sur Terre, c'est celle qu'il y a entre notre tête et notre cœur. La tête, c'est de l'information. Mais si on veut aller à l'application, il ne faut pas seulement savoir, il faut aussi faire. Donc pour passer du savoir au savoir-faire, il faut appliquer. En d'autres termes, si vous voulez passer de l'information à la transformation, parce que ce que l'on cherche, c'est d'être transformé à l'image de Christ. Donc si on veut passer de l'information à la transformation, savoir ne suffit pas. Savoir ne suffit pas, il faut aussi faire. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Je sais qu'il faut s'endormir avant minuit. Les théories par rapport au sommeil disent que c'est bon de dormir avant minuit, que les heures avant minuit sont réparatrices. Je le sais, mais combien de fois je le fais ? Pas beaucoup. Je suis rarement endormi avant minuit. Donc je le sais, mais je ne le fais pas forcément. Et peut-être que ça vous fait sourire, mais laissez-moi vous mentionner quelques points. Nous savons qu'il faut faire du sport. C'est bon pour la santé. Mais est-ce que nous le faisons ? Nous savons qu'il faut manger des fruits et légumes. Là, je m'adresse principalement aux jeunes. Mais est-ce que nous le faisons ? Les étudiants, écoutez ça. Nous savons qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute pour rendre un devoir. Mais est-ce que nous le faisons ? Oui, moi aussi, j'ai un master dans celui-là. Nous savons qu'il est bon de prier. Mais est-ce que nous le faisons régulièrement ? Nous savons qu'il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que nous le faisons ? Nous savons qu'il ne faut pas s'inquiéter. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais est-ce que nous le faisons ? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que l'on sait dans la vie commune de tous les jours, mais aussi dans notre vie chrétienne. Il y a des choses que l'on sait. On sait qu'il est bon de prier, on sait qu'il est bon de louer le Seigneur, on sait qu'il est bon de lire sa Bible, on sait qu'il est bon de venir à l'église, mais nous ne le faisons pas toujours. Mais je vous rassure, au temps de Jésus, c'était pareil. Tournez avec moi en Matthieu chapitre 7. En d'autres termes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque de Jésus, Jésus a parlé de ce même problème. Il y a certains qui savent, mais qui ne font pas. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 28. Donc Jésus, au temps de son époque, était aussi confronté à ce problème. Il dit, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi, verset 24 de Matthieu 7, « Quiconque entend ou quiconque sait ces paroles que je dis et les met en pratique ou les fait, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. » Premier résultat, il sait, il a entendu, il a mis en pratique, il a fait. Deuxième cas que Jésus évoque ici, mais quiconque entend ces paroles que je dis, ou en d'autres termes, quiconque sait ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique ou ne les fait pas, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le résultat, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc Jésus dit deux choses ici. Il dit, il y a ceux qui entendent ou ceux qui savent et qui mettent en pratique. En d'autres termes, ils le font ce qu'ils savent. Et il dit, seul il y a l'autre qui sait, qui entend, mais qui ne met pas en pratique et qui ne fait pas. Donc, on sait les choses. Mais si on ne les met pas en pratique, notre maison n'est pas bâtie sur le roc. Si on sait et si on entend, mais on ne met pas en pratique, notre maison n'est pas bâtie sur le roc. Et vous savez quoi ? Il en va de même avec le sujet de l'autorité du croyant. Si vous êtes dans cette église, vous savez certainement, parce que toute cette année 2011, nous avons parlé de l'autorité du croyant. Donc si vous êtes dans cette église, vous avez assisté régulièrement aux réunions, nous parlons de l'autorité, vous savez que vous avez l'autorité au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Nous avons entendu passablement à ce sujet. Nous savons que nous avons l'autorité. Mais si je reprends les termes de Jésus, si je sais et si j'entends et je ne l'exerce pas, ou si je ne la mets pas en pratique, cette autorité, laissez-moi vous dire, elle nous est d'aucune utilité. En d'autres termes, si vous savez que vous avez l'autorité, mais vous ne l'exercez pas dans votre vie au quotidien, elle ne vous sert à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Vous entendez, mais vous ne mettez pas en pratique. Votre maison est bâtie non pas sur du roc, mais sur du sable. Donc, Jésus a reçu toute autorité. Dans Matthieu 28, il dit, il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et nous savons que cette autorité nous a été déléguée. Cette autorité, il ne l'a pas gardée. Donc, si par exemple, je prends une guitare et je la donne à quelqu'un, c'est son devoir de l'utiliser, de la mettre en pratique. Mais s'il a juste la guitare à la maison, et elle est sur son support comme ça, et la guitare ne sert à rien, ou lui ne l'utilise pas, sa guitare, ce don, n'est d'aucune utilité. Donc Jésus nous a donné un don qui est l'autorité. Mais si notre autorité est comme la guitare sur son support à la maison, et nous ne l'exerçons pas, nous ne l'appliquons pas, elle ne nous sert à rien. Est-ce qu'on a bien compris ça? Il faut l'appliquer, il faut l'exercer. Jésus a dit en Luc 10, 19, nous avons donc l'autorité dans le nom de Jésus, et il a dit, pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes, sur combien? Sur toutes, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous savons ici que le verset ne mentionne pas de vrais serpents ou de vrais scorpions. C'est une analogie, c'est une image pour dire que nous avons l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tournez avec moi en Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Si vous voulez vraiment saisir l'autorité, lisez, lisez et lisez encore l'épître aux Éphésiens. En Éphésiens 1, chapitre 21. Verset, pardon. Éphésiens chapitre 1, on va lire à partir de verset 20. Il dit, il l'a déployé en parlant de la puissance en Christ, en le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir, donc là on parle de Jésus, à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de combien? De toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute nomination, de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc Jésus a été placé au-dessus de toute autorité, a été placé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination. Mais là, vous vous dites, oui, mais ça, c'est Jésus. Continuons pour voir où est notre position à nous en tant que croyants. Éphésiens chapitre 2, vous êtes restés dans Éphésiens et nous allons au verset 6. Il nous a, en parlant de nous, croyants, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous voyons que Jésus-Christ a été placé au-dessus de toute autorité, mais que vous, vous avez été placé avec lui au-dessus de toute autorité. La Bible Sommer dit dans ce verset, Éphésiens 2, 6, « Par notre union avec Jésus-Christ. » Oh, j'aime ça. Vous savez que la rédemption, c'est non seulement une identification. Jésus s'est identifié à notre péché pour que nous puissions obtenir sa justice. La rédemption, c'est non seulement la substitution, le fait qu'il a pris notre place à la croix, mais la rédemption, c'est aussi notre union. Pour notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités, nous, ensemble, et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Donc votre position dans les lieux spirituels, c'est une position qui est en dessus de toute autorité, de toute domination. Ça, c'est la position. Mais si vous êtes dans une position d'autorité et vous n'exercez pas l'autorité, eh ben c'est joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le titre du message, c'est l'autorité de la parole déclarée. Vous savez que nous sommes une église où nous proclamons beaucoup, nous déclarons beaucoup. Ce n'est pas juste parce que c'est fun de le faire, c'est parce que c'est efficace. Lorsque Pasteur Laura vient ici et fait de bonnes déclarations, c'est vrai que quand elle le fait, nous rigolons beaucoup, mais c'est pour que nous soyons édifiés, exhortés et nous déclarons la parole de Dieu dans nos vies. Et nous allons voir aujourd'hui deux personnes qui avaient la même autorité et un l'a exercée et l'autre ne l'a pas exercée. Et on va voir les résultats. Mais j'aimerais, tout mon message tourne autour de cette vérité. On ne combat pas une pensée par une autre pensée. Mais on combat une pensée par la déclaration de la parole de Dieu. Une fois à la suite d'une de mes prédications, il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, mais vous avez beaucoup insisté sur le fait de dire, de vraiment dire avec la bouche, à haute voix, de proclamer, de déclarer. Parce que moi, elle me dit, mais moi en fait, quand j'ai une mauvaise pensée, ben, j'essaie de combattre avec une autre pensée. Mais ça, ce n'est pas efficace. Vous ne combattez pas une mauvaise pensée par une autre pensée. Vous combattez une mauvaise pensée en déclarant la parole de Dieu. Parce que si vous faites un petit exercice, faisons un petit exercice ensemble. Vous comptez jusqu'à 10 dans votre tête. Je fais avec ma main, d'accord? Et ensuite, je vais donner une consigne et vous allez répéter après moi. Donc, commençons à compter dans notre tête. Et maintenant, comment vous vous appelez? Appelez Rebecca, Christine, Elodie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez arrêté de compter dans votre tête. Donc, du coup, quand vous avez une pensée qui est une mauvaise pensée, vous devez exercer votre autorité, pas avec une autre pensée. Ah ouais, essayez de vous combattre là. Vous devez combattre cette pensée en déclarant la parole de Dieu. Ça, c'est une clé. Si vous exercez ça tout de suite, la Bible dit que nous devons prendre, saisir toute pensée captive, pensée captive. Nous savons que le combat de la foi, le combat spirituel que dit Paul, n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre nos pensées. Et il dit qu'il faut prendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Comment on fait ça? On prend cette pensée captive en déclarant la parole de Dieu, en déclarant quelque chose, mais pas par une autre pensée. C'est ça l'exercice de l'autorité. On ne combat pas une pensée par une autre pensée, on combat une mauvaise pensée par la parole, la déclaration, la proclamation de la parole de Dieu. Si vous commencez à faire ça, vous allez voir que tout de suite la mauvaise pensée va commencer à s'atténuer. Parce que vous prenez position, votre position céleste, elle est au-dessus de toute domination, mais lorsque vous parlez, vous commandez un commandant d'armée, il a peut-être sa position de général, mais s'il n'ordonne pas, s'il ne commande pas, il ne se passe rien. Donc vous devez parler, vous devez déclarer. Et là, vous avez commencé à gagner des combats dans le combat spirituel, dans la prière, vous avez commencé à avoir des victoires. Donc le combat de la foi, le combat spirituel est dans nos pensées. Donc, je vous ai promis que nous allions comparer deux personnages dans la Bible. Les deux avaient la même autorité. L'un ne l'a pas exercé. Donc, je vous ai dit, si vous faites ce que vous savez, ça va vous transformer. Mais si vous faites ou si vous ne faites pas ce que vous savez, ça ne va pas changer grand-chose. Et là, nous allons voir deux personnes qui savaient qu'ils avaient l'autorité. L'un l'a exercé, l'autre ne l'a pas fait. Nous allons comparer Adam et Jésus. Et vous me dites, mais comment on peut comparer Adam et Jésus? Vous savez que Adam, avant la chute, avait la même autorité que Jésus? Vous avez parlé de la rédemption, comme quoi c'était une union avec Christ, une substitution, une identification. Mais la rédemption, j'aime aussi la définir comme ça. La rédemption, c'est la restauration des droits qui ont été perdus en Éden. Ça veut dire que le fait de l'autorité, lorsque Adam a péché et a été défait de son autorité, il l'a perdu. Le diable dit en Luc chapitre 4, il dit « Elle m'a été donnée ». Ça veut dire qu'Adam l'a perdu. Donc la rédemption, c'est une restauration, une restitution des droits qui ont été perdus en Éden avant la chute. Et un de ces droits, ou une de ces réalités-là, c'est le fait d'avoir l'autorité. Donc, et la Bible dit en Corinthiens 15 que Adam, dans la Genèse, est le premier Adam, et elle dit que Jésus est le deuxième Adam, le dernier Adam ou le second Adam. Donc ça veut dire qu'on peut les comparer, avant la chute, pas après, avant. Donc prenons Genèse chapitre 3. Nous allons voir que Adam et Jésus étaient confrontés aux mêmes tentations. Donc quand je dis que Adam a reçu l'autorité, souvenez-vous en Genèse chapitre 1, Dieu lui donne l'autorité de nommer les animaux, etc. Et puis de pas dominer sur les hommes, mais de dominer sur la création. Et en Genèse chapitre 3, verset 6, nous allons prendre Genèse chapitre 3 et nous allons lire de 1 à 6. Et nous allons voir que Adam avait l'autorité, mais il ne l'a pas exercée. C'est tout le titre du message, hein? L'autorité de la parole déclarée ou l'exercice de notre autorité. Nous savons que nous avons l'autorité, nous savons que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus, mais si nous ne l'exerçons pas, elle ne nous sert pas à grand-chose. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » Verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon. » En d'autres termes ici, il y a le désir ou la convoitive de la chair. Quelque chose est bon, on désire quelque chose. Et agréable à la vue, convoitise des yeux ou désir des yeux. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, pour être comme Dieu, la Bible dit. Donc, le désir ou la convoitise de l'orgueil. Donc là, il y a trois choses, le désir de la chair ou la convoitise de la chair, le désir des yeux et le désir ou la convoitise d'être comme Dieu, d'être orgueilleux. Et si vous lisez le reste du texte, Adam qui a reçu l'autorité, Adam qui a reçu le mandat de garder et de cultiver le jardin, vous vous souvenez de ça? Il est où Adam là? Il est où Adam là? Il n'est pas là? Si vous continuez dans le texte, il n'est pas là. Autrement dit, le mandat qu'il a reçu de Dieu, l'autorité qu'il a reçue de Dieu, il ne l'exerce pas et le résultat, c'est quoi? C'est la chute. Le résultat est un résultat catastrophique. Et moi, j'extrapole toujours. Je dis, regardez dans la société actuellement. Regardez les hommes. Où sont les hommes aujourd'hui? Où sont les hommes dans les familles? Où sont les hommes qui se tiennent un petit peu dans leur foyer et qui doivent diriger leur foyer? Où sont les hommes dans les entreprises? Où sont les hommes dans les églises? C'est un fléau qui nous a, cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, nous a destitués de notre rôle en tant qu'hommes. Il y a une crise de la masculinité dans la société et elle se trouve là. Parce que Adam n'a pas exercer le mandat que Dieu lui avait donné. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ça, c'était mon opinion. Je pense que les femmes doivent crier « Alléluia !» Donc, on parle du fait que Adam et Jésus avaient la même autorité. Adam ne l'a pas exercé. Il n'était pas là pour dire à la femme « Non, non, ne mange pas. Dieu nous a dit de ne pas manger. » Il n'était pas là pour faire ça. Il était absent. Allons en Luc chapitre 4 et nous allons voir que le désir de la chair, le désir de la vue et le désir de l'orgueil de la vie ont été les mêmes tentations que Jésus a dû affronter. Mais, et là on peut vraiment crier Alléluia, il a résisté. Et je pense qu'on peut être reconnaissant qu'il a résisté, n'est-ce pas? On ne combat pas une mauvaise pensée par une autre pensée, mais par la déclaration de la parole de Dieu. Il faut parler. Il ne faut pas seulement penser, il faut parler. Donc vous êtes en Luc chapitre 4. Nous voulons voir comment Jésus, lui, exerce l'autorité, parce que lui, c'est le modèle. Donc nous allons commencer la lecture en Luc chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien, donc il avait faim durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Tentation ou désir de quoi là? De la chair, hein? Il est en train de faire un jeûne de 40 jours, il a faim, on se retrouve dans le même cas qu'Adam et Ève dans le jardin. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Est-ce que Jésus a dit, oh non, le diable est après moi. Oh non, encore le diable, il est là. Oh non, mais décidément, il ne me lâche pas. Jésus a dit, non, mais vous entendez les chrétiens. Oh, le diable est après moi. Oh, encore le diable cette semaine. Mais c'est qui le plus fort finalement? Est-ce que c'est Dieu le plus fort ou est-ce que c'est le diable? Vous savez que le diable, c'est un ange déchu. Et qu'il y a deux tiers des anges qui sont en votre faveur et un tiers qui sont contre vous. Donc comment il peut être plus fort? Il dit ici, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc tentation au niveau de la chair. Jésus, il fait quoi? Jésus lui répondit, il est écrit. Il n'a pas dit, c'est pas écrit, Jésus a pensé, Jésus a médité, Jésus s'est dit, peut-être que c'est bien. Jésus a dit, il est écrit, et il a cité quoi? La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Jésus a parlé, Adam ne l'a pas fait. Jésus a déclaré, Adam ne l'a pas fait. Jésus a proclamé la parole de Dieu, Adam ne l'a pas fait. Pourtant, ils avaient la même autorité, donc les deux savaient qu'ils avaient l'autorité, mais un ne l'a exercée et l'autre pas. Deuxième point, désir des yeux, au verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc le diable était en train de tenter Jésus au niveau visuel, au niveau des yeux, tentation, convoitise des yeux. Qu'a fait Jésus ? Tous les royaumes de la terre, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Elle lui a été donnée quand et où ? En Genèse, bien sûr, car elle m'a été donnée par Adam et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc en d'autres termes, le diable propose à Jésus un petit raccourci. Il lui dit, non, mais viens avec moi, parce que tu vas avoir tous les royaumes là. Mais si Jésus avait fait ça, là, le plan de la rédemption aurait échoué. Il n'y aurait pas eu de salut pour nous. Donc Jésus devait résister et nous sommes reconnaissants qu'il l'ait fait. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit. Oh non. Qu'est-ce qu'il a répondu là ? Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il n'y a pas besoin d'aller par 36 000 chemins. C'est la déclaration, la proclamation de la parole de Dieu qui est efficace dans l'exercice de notre autorité. Mais il faut parler. Il faut vraiment le faire. Peut-être ça va vous sembler bizarre d'être dans votre voiture, tout d'un coup il y a une mauvaise pensée et vous dites, non, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Tout d'un coup il y a une pensée de mort, de truc qui est bizarre. Non, je vivrai. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il ne faut pas seulement le penser, il faut le dire. Il faut le proclamer, il faut prendre une position. Vous dites que vous êtes assis dans les lieux spirituels en Christ Jésus. Ça, c'est votre position et il faut l'affirmer. Si quelqu'un vient titiller votre position au travail, tu vas quand même lui dire, hey, mais c'est moi le boss ici. Tu vas lui rappeler que c'est toi le boss au boulot. Alors pourquoi vous ne rappelez pas à Satan que maintenant c'est vous le boss de lui ? Vous êtes son boss maintenant. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vous maintenant qui avez les rênes. Ça a été restauré, cette autorité a été restaurée. Alléluia. Et ça, si vous le saisissez et vous commencez à l'appliquer, ça va commencer à transformer, pas seulement à vous informer, mais à transformer votre vie. Et la troisième chose qu'on voit, c'est au verset 9, lorsque le diable tente Jésus au niveau de l'orgueil de la vie. Il lui dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu. Tentation au niveau de son identité ici. Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Troisième fois, troisième tentation, Jésus lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Point final. Il s'est pas débattu pendant une demi-heure, la Bible ne dit pas ça en tout cas, la Bible dit qu'il a parlé. Il a proclamé, il a déclaré. Donc nous avons vu trois tentations différentes, même autorité. L'un savait mais n'a pas fait, l'autre savait et a fait. Quel est le résultat ? Nous avons vu en Genèse que c'était la chute de l'homme. Mais quel est le résultat dans la vie de Jésus ? Oh, là ça commence à me dire bon. Luc chapitre 4, verset 14, le résultat. Lorsqu'il a été tenté, qu'il a résisté, qu'il a exercé son autorité, il a dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance. Lorsque vous allez commencer à combattre, lorsque vous allez commencer à ne pas vous laisser faire dans vos pensées, lorsque le combat de la foi est le vôtre, lorsque vous allez commencer à prendre autorité, vous allez être revêtu d'une puissance, il y a une onction qui va commencer à venir et vous allez voir que vous allez commencer à faire des dégâts dans le milieu spirituel. Si vous résistez par la parole, en déclarant, vous allez être, vous savez que dans l'autorité, la justice, on devient justice de Dieu, on ne peut pas grandir dans la justice de Dieu. Mais nous pouvons grandir dans l'autorité. Nous pouvons grandir dans notre sphère d'influence, si vous voulez, dans les milieux spirituels. Et c'est lorsque vous commencez à résister par la proclamation de la parole de Dieu, et là vous montrez vraiment à l'ennemi de votre âme que vous êtes en position, non seulement dans les lieux célestes, mais que vous l'exercez, et ensuite on voit les résultats que ça a fait dans la vie de Jésus. Mais Jésus nous montre un modèle, parce que la Bible dit qu'il s'est dépouillé de son égalité avec le Père, qu'il ne l'a pas regardé comme une proie à arracher, mais qu'il est venu en forme de serviteur. Et qu'il était homme revêtu de l'Esprit Saint. c'est nous. Nous avons été rachetés, la nature de Dieu, la nouvelle naissance est venue en nous, nous avons la même nature que Jésus, et nous avons été revêtus de l'Esprit Saint. Pour ceux qui sont remplis de l'Esprit, il y a eu un revêtement de puissance, et maintenant, c'est à nous. C'est à nous. Si je vous donne une épée, c'est souvent le symbole de l'autorité dans les Écritures, si je vous donne une épée, mais vous la gardez dans votre fourreau, et vous allez au combat, ben, je suis désolé pour vous, mais je vous ai donné une arme, mais vous ne l'utilisez pas. Donc Jésus nous a donné une arme, mais il veut qu'on l'utilise. Vous êtes en train de saisir ? Et tout mon message converge vers cette écriture. Apocalypse 1, verset 16. Souvenez-vous, tout ce que j'ai dit tourne autour d'une seule chose. On ne combat pas une pensée, une mauvaise pensée par une autre pensée. On combat une pensée par la proclamation, la déclaration de la parole de Dieu. Et là, je deviens excité quand j'arrive à ce verset. Ça, c'est une pépite d'or de la parole de Dieu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça c'est fort. Donc nous sommes dans l'Apocalypse, en verset 1, verset 16. Donc Jean a cette vision, il est sur l'île de Patmos, il a cette vision que Dieu lui permet d'avoir sur la fin des temps notamment. Mais il a cette vision de Jésus en Apocalypse chapitre 1. Il est écrit, Apocalypse verset 1, verset 16, donc le dernier livre de la Bible. En parlant de Jésus, il avait dans sa main droite, 7 étoiles. Accrochez-vous. De sa bouche sortait quoi ? Une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et je vous ai dit que le symbole de l'épée, c'est le symbole des Écritures. C'est le symbole de la parole de Dieu. En Hébreux 4, verset 12, c'est écrit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui divise jointure et moelle et âme et esprit. Mais Jésus ne l'a pas gardé dans son fourreau. Jésus avait l'épée aiguë à 2 tranchants dans sa bouche. Et vous devez avoir l'épée de la parole de Dieu dans votre bouche. Sinon, si vous la laissez dans le fourreau, elle ne vous sert à rien. Vous savez, mais vous ne faites pas. On revient au début du message. Il faut sortir cette épée, non seulement l'avoir dans son cœur, mais l'avoir dans sa bouche. Parce que Jésus avait l'épée à 2 tranchants dans sa bouche. Et c'était ça sa force, c'était ça son autorité, c'était ça qui le propulsait à revêtir la puissance, c'est ça qui lui a permis de résister au diable, c'est de déclarer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans cette église nous proclamons, nous déclarons, nous insistons sur le fait qu'il faut parler avec votre bouche, parce que Dieu veut que vous mettiez sa parole dans votre bouche. Et on retrouve ça, on sait que Jésus, ça veut dire sauveur, celui qui sauve, ou Yahvé sauve. Et le nom hébreu de Jésus, c'est Josué. Et Dieu a donné la même consigne qu'à Jésus, ou ce que Jésus a fait dans Josué. Il lui a dit quoi ? Josué, en Jésus, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès, tu réussiras dans toutes tes entreprises, etc. Hein, on connaît le verset. Josué. Moi, j'aime Josué parce que Josué, c'est l'esprit de conquête. Josué, c'est la conquête de Canaan. Josué, c'est ceux qui ont traversé le Jourdain. Josué, c'est ceux qui ont fait tomber les murs de Jéricho par la puissance de la louange, par les clairons. Ils ont tourné 7 fois pendant 7 jours autour de la ville, etc. C'est la conquête. Mais vous voyez qu'il a... Oula, j'ai peur de faire une faute de français. Il a conquéri. Conquis, merci. Je savais que... Il a conquis. Il a conquis parce que Dieu lui a donné cette consigne. Que ce livre de ta loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jésus avait l'épée dans sa bouche. Est-ce que vous, mes amis, aujourd'hui, vous voulez prendre une décision de mettre cette épée dans la bouche ? Parce que si votre Bible, elle est à la maison, elle est fermée, et elle prend la poussière, et après vous venez dire, mais le diable est après moi, ou il m'est arrivé ici, et il m'est arrivé telle ou telle chose cette semaine. Mais si vous commencez à l'ouvrir, à la lire, à la méditer, à la mettre dans le cœur. Et vous verrez qu'en temps voulu, le Saint-Esprit va vous rappeler les Écritures que vous avez placées en vous. Et c'est là qu'il va commencer, il va falloir commencer à parler, commencer à déclarer. Est-ce que vous voulez être comme Adam ou comme Jésus ? Même autorité. Un l'a fait, un l'a exercé, l'autre pas. On fait une déclaration ensemble. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait des déclarations ? On va faire cette déclaration ensemble. Vous voulez répéter après moi ? Vous voulez vous mettre debout ? On va finir là ensemble. Souvenez que j'ai développé cette idée. Donc on répète, je ne combats pas mes mauvaises pensées par d'autres pensées. Mais je les combats par la proclamation de la parole de Dieu. Car la parole déclarée fait autorité dans ma vie. Souvenez-vous, le titre du message, c'était la parole, l'autorité de la parole déclarée. Mais faites-le. Faites-le. Chaque fois qu'il y a une pensée, bam, vous prenez position et vous parlez. Alléluia.